11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à tous et à toutes, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Hier, elle a testé la téléconsultation médicale, c'est pratique, oui. Même si elle ne sait toujours pas pourquoi elle s'est retrouvée nue pour un mal de gorge. La patiente 2-0, Christine Béroux.
Bonjour, bonjour à tous.
Christine Béroux qui s'est fait des mèches et ça ne se voit pas.
C'est parce que j'ai demandé.
J'ai demandé est-ce que ça se voit, mais pas trop. Donc,
oui, bah,
il
ça
a
se voit.
Entendu réussi, pas trop.
Il a entendu pas trop. C'est un rock, il ne tombe jamais malade. Il est déjà vacciné contre la grippe et la joie de vivre. Le préventif Didier Porte. Oh non. C'est officiel, il ne représentera pas la France en concours de l'Eurovision. Oh. Et c'est pas plus mal, on n'arrivera peut-être pas dernier cette année. Le crooner des salles de bain, Jean-Philippe Vizzini.
La la la. Bonjour à tous.
Hier, c'était la journée de l'hypersensibilité. Il a mangé une galette. Je peux vous dire qu'il a beaucoup pleuré quand son petit neveu a eu la fève. L'inconsolable Ben H.
Il a triché, bonjour à tous. Et celle qui, contrairement à notre président, n'a pas besoin d'écrire de lettres pour se faire comprendre. Quand elle n'est pas contente, elle nous envoie un mail en pleine nuit. Anne Romanoff.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
Moi, je sais.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous parlera des gilets jaunes. À 11h30, nous recevons Rudy Milstein et Salomé Lelouch pour la pièce J'aime Valentine mais bon, actuellement au théâtre Le Pic à Paris. Jean-Philippe Vizzini nous racontera ses points communs avec le personnage principal de la pièce. Et à partir de 11h50, Patrick Poivre d'Arvor sera notre invité à l'occasion de la sortie de son nouveau roman La Vengeance du Loup aux éditions Grasset. Ben H reviendra sur sa carrière et Christine Béroux lui fera une interview ex libris.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Simon et Nathanaël, ce sont les prénoms des deux pompiers qui ont perdu la vie lors de l'explosion de la boulangerie de la rue de Trévise. On acclame les stars du foot, on admire les chanteurs, on est fasciné par les stars de télé-réalité. Beaucoup de stars font leur numéro, mais très peu sont capables d'être celui qui répond à un numéro le 18. Pourtant, le pompier, c'est celui qui se rapproche le plus d'un super-héros. Il n'a pas de cape et de slip sur ses collants, mais un super-pouvoir, le courage. Si on est coincé dans un immeuble en flammes ou incarcéré dans une voiture accidentée, c'est pas Mbappé ou Maître Gims qu'on appelle à l'aide, c'est un pompier anonyme, reconnaissable à sa tenue, son casque et à ce camion rouge qui fait rêver les enfants. « Quand je serai grand, je serai pompier ou astronaute. » On a tous entendu un enfant dire cette phrase à ses parents, les yeux pleins d'étoiles, tout excité de s'imaginer en train de monter à la grande échelle ou de manier la lampe à incendie. On voit jamais de vidéo de bavures de pompiers, ça n'existe pas. Par contre, des bavures contre les pompiers, on en a trop vu. Ces dernières années, on a vu des véhicules de pompiers caillassés, saccagés, alors que ces hommes et ces femmes venaient juste apporter leur aide. Une société qui lance des pierres sur des soldats du feu, c'est une société qui préfère allumer des feux plutôt que les éteindre. Quand un homme ou une femme devient pompier, il ne cherche pas à devenir riche, il ne cherche pas la gloire, le buzz, non. Celui qui devient pompier cherche juste à rendre service et à sauver des vies, souvent comme on l'a vu ce week-end au prix de la sienne. Alors lorsque ce week-end, Simon et Nathanaël sont entrés dans cet immeuble rue de Trévise pour éteindre cette fuite de gaz, ils n'ont pas cherché à savoir qui ils devaient sauver en priorité, ils sont juste demandé ce qu'ils risquaient. Ils ne se sont pas demandé ce qu'ils risquaient, ils étaient juste concentrés sur ce qu'ils devaient faire. Samedi, Simon et Nathanaël ont donné leur vie pour aider les autres. C'est devenu tellement étrange de vouloir aider les autres. À une époque, il y a tellement de personnes qui cherchent juste à mettre de l'huile sur le feu ce matin. J'aimerais juste qu'on dise merci à ceux qui les éteignent. Merci Simon et Nathanaël, merci à tous les pompiers. Alors hier soir, Emmanuel Macron a enfin publié sa lettre aux Français. Vous en pensez quoi, Jean-Philippe?
Moi, je trouve ça sympa. Nous, on lui demande des sous. En retour, il nous écrit une lettre. Et bien, quand ils nous demanderont de payer mes impôts, moi, je leur enverrai une carte postale.
Christine?
Alors oui, je l'ai lu. Et après, j'ai fait un classement des textes engagés les plus marquants de l'histoire. Alors en 1, j'ai mis le j'accuse de Zola. En 2, l'appel du 18 juin. Et la lettre de Macron aux Français, je l'ai classée 3452e, juste après la recette de la pâte à crêpes.
Didier?
La lettre d'Emmanuel Macron aux Français, je l'ai lu. Et je peux vous en dire une chose. Il faut un sacré sens de l'effort pour aller au bout.
Vous l'avez lu en entier, Didier?
Oui.
Et alors?
Oh, c'était chiant.
Un peu de respect pour notre président, il a dû passer des heures à l'écrire. Ben H?
Moi, je pense que cette lettre aux Français, quoi qu'elle dise, hein, c'est un peu comme jeter une bouteille à la mer.
C'est-à-dire?
Macron et les Français, c'est comme une histoire d'amour qui tourne mal. Quand t'es obligé d'envoyer une lettre, c'est que déjà la France, elle répond plus à tes coups de fil, elle veut plus te voir. Perso, la dernière fois que j'ai envoyé une lettre, moi, j'étais déjà cocu. Alors un peu de dignité, Manu, faut laisser la dame tranquille maintenant.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Vendredi, Ségolène Royal a annoncé qu'elle ne se présentera pas aux Européennes. Bah, c'est normal, attends, elle n'est pas chanteuse. Quoi, bah quoi, les Européennes, c'est pas le synonyme intello de l'Eurovision ? Je comprends plus rien, moi je suis perdue.
Ségolène Royal annonce qu'elle ne se représentera pas aux élections européennes. Malgré cette perte insoutenable, les élections européennes devraient être maintenues.
500 personnes ont été victimes d'une épidémie de gastro à bord d'un paquebot de croisière. Quand ils sont arrivés à destination, les douaniers leur ont demandé « papier s'il vous plaît », ce à quoi ils ont répondu « bah on n'en a plus ».
Doctolib a lancé dimanche sa plateforme de téléconsultation avec paiement et rédaction d'ordonnances en ligne. J'ai essayé, bon bah c'est à l'image du site, hein. J'ai consulté pour un rhume et là demain je me fais opérer de l'appendicite.
La lettre aux Français du président Macron comporte 34 questions posées en français. Hein. 34 questions, ça fait beaucoup pour un mec qu'on a élu pour trouver les réponses.
Tennis, ouverture aujourd'hui de l'Open d'Australie à Melbourne. Premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Avec la question que tout le monde se pose, les joueurs français seront-ils tous éliminés à l'issue du premier ou du deuxième tour ?
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben Hache, Jean-Philippe Vizini, Christine Mirou, Didier Porte et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner des places pour mon nouveau spectacle Tout va bien. On joue à un autre jeu, devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi matin avec Jean-Philippe Vizini, Ben Hache, Christine Mirou, Didier Porte.
Ouais,
vous êtes tellement frais ce matin tous.
Ouais, bah c'est lundi. C'est lundi.
Ah, c'est le lundi. Hein, Christine ?
Ah, bah moi j'ai des mèches, donc.
Elle s'en est pas remise de son coiffeur.
Comment il s'appelle ce coiffeur ?
Alors, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Jean-Louis David.
Non, mais le prénom, pas la marque.
Mais j'en sais rien, moi. En fait, je vais jamais chez le coiffeur. Ah, j'y étais pas allée depuis 2 ans et là j'ai pris le premier qui pouvait me prendre.
Depuis 2 ans, mais vous le faisiez.
Et c'était une boulangerie,
évidemment. Je me coupais les pointes toute seule. Et en fait, je me suis allée, je voulais reséduire mon homme. Je me suis allée, je vais chez le coiffeur. Je dis, voilà, je veux changer, je veux des mèches.
Il a été reséduit, le bonhomme, ou pas ?
Mais en fait, je suis rentrée, il s'est pas trop rendu compte parce que j'avais demandé à pas de brushing, que j'aime pas les brushings. Donc en fait, je m'étais attachée. Bon, bref.
Il a juste dit, tiens, il manque 150 balles.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué le week-end. Cette semaine, tenter de gagner 2 places pour aller voir mon tout nouveau spectacle, Tout va bien.
Oh là là, la chance.
Au Casino de Paris du 29 au 31 janvier, en partenariat avec Europe 1. Et si vous n'habitez pas à Paris, vous pouvez avoir des invitations pour la tournée qui est dans toute la France. Oh, quelle chance,
c'est hein.
On va jouer avec Maë. Bonjour Maë.
Bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Maë.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Maë, merci.
Et pour la santé.
Oh, bah, c'est gentil. Maë, alors c'est quoi ce nom déjà ?
Bah, c'est comme comment Christophe.
Bah Maë.
Non, c'est parce que ma maman et mon papa, c'était une fille, donc ils auraient voulu l'appeler Maëva, et puis ils ont eu un garçon, et donc ils l'ont appelé Maë.
Ah, d'accord.
C'est ils original. Ont une fille après ou vous êtes un garçon unique ?
Oui, une fille qu'ils ont appelée Bernard. Juste après.
Ils ont appelé Jules.
Ils ont une fille après vos parents ?
Non. C'est enfant unique.
D'accord. Maë. Donc vous passez votre vie à raconter cette histoire parce que tout le monde vous demande Maëlle et vous dites non Maë, c'est ça ?
Oui.
Alors vous écoutez l'émission en famille.
Oui.
Et vous êtes en alternance, donc étudiant en gestion à Saint-Malo ?
C'est ça, oui.
Bon, et vous voulez faire quoi comme métier, Maë ?
Pour le moment, j'ai pas une idée bien précise. Bon, ça serait dans la gestion de projet, peut-être. Je voudrais, voilà.
N'importe quel genre projet. De projet. Parce que la vie sentimentale de Ben Hache, c'est un projet.
Mais c'est pas payé.
Ça peut être un projet.
Les mèches de Christine pour l'accompagner la prochaine fois qu'elle va chez le coiffeur.
J'ai l'impression que ça doit être un très bon projet.
En plus, elle est bretonne comme vous, Christine.
Oui.
Donc...
Ah bon ?
Ah oui.
Vous êtes née où, Maë ? Dans quelle ville ?
Saint-Malo.
Ah, vous n'êtes pas vraiment breton quand même. Hein.
Bah si,
pourquoi
Saint-Malo, c'est en Bretagne.
Bah, la Bretagne, pour moi, c'est le Finistère. Au-delà, c'est l'étranger.
Qu'est-ce que les idées étriquées.
Non, mais si, vous êtes un breton de Saint-Malo, quoi. Vous êtes presque un Normand, en fait.
Voilà.
C'est un breton. Bon, je veux pas, c'est un sujet extrêmement clivant.
Non, mais Saint-Malo, c'est la Bretagne.
Mais oui,
c'est la Bretagne.
Déjà, je voulais dire qu'on s'est fait insulter la semaine dernière parce que Fontenay-le-Comte, je n'avais pas dit que c'était en Vendée. Et on a reçu plein de tweets par rapport à ça. Donc
là, je vais avoir un contrat sur ma tête.
C'est ça. Okay. Donc, dis-le, Saint-Malo est en Bretagne.
Non, je peux pas.
Si
c'est pas possible.
Elle va être déshéritée.
La Bretagne, c'est une région, il y a plusieurs départements.
Ok, Saint-Malo est en Bretagne. Allez. Merde, là, il y a toute ma famille, c'est fini, quoi. Je viens d'être déshéritée.
Allez, va manger une côte de bœuf pour te remettre de tout ça.
Bon, Maë, vous jouez avec qui?
Avec vous.
Oh là là,
elle n'était pas prête.
Non, bah alors.
Vous savez qu'elle a jamais, elle a pas gagné depuis 3 mois.
Hein. Ah bon?
J'arrive pas. Ah non, mais parce que c'est stressé. Ah oui.
Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on prend tous des notes pour nous préparer. Ah, tout.
Voilà, on y va. Vous êtes prêts? Attention, top chrono. C'est un grand magicien. Il a un juré incroyable talent. Il a beaucoup de talent. Un grand magicien. Un magicien qui est très grand. Il mesure 2 mètres. Il a plein de cheveux.
Je passe.
Oh, c'est l'ancien président de la République.
François Hollande.
Oui, quand j'étais grand, j'étais... Non, il chante avec une voix aiguë, il a gagné la Nouvelle Star. Faudrait savoir ce que tu veux. Non. On l'a vu à Destination Eurovision. Un chanteur, alors ?
Christophe Willem.
Oui, c'est une... Il a critiqué les femmes de 50 ans et tout le monde l'a critiqué parce qu'il avait... Oui, c'est une chanteuse. Elle était dans un jury. Son nom, c'est une abréviation d'Isabelle.
Le pauvre.
Moi, j'ai adoré. Quand je serai grand, je serai... Oui.
Est-ce qu'il y a un best-of qui va être publié de tous vos... On pourrait sortir un DVD.
Non, mais c'est pas terrible. Hein. Enfin, non, par... quoi
oui, une chanteuse qui a un diminutif d'Isabelle. Enfin, bah, il y a peut-être plus simple pour trouver Zazie, non?
Non, mais j'avoue que vous n'avez pas beaucoup de chance, Anne, à chaque fois. Vous... Parce que c'était bien des... Éric Antoine, c'était facile à trouver.
Un grand magicien. Bah oui. Alors, vous connaissez Éric Antoine?
Il se fait engueuler en plus. Mais...
Oui, et puis Zazie, les diminutifs d'Isabelle, elle était dans The Voice, c'était pas compliqué quand même ça. Alors.
Pouf! Et vous êtes viré.
Bon, 3 bonnes réponses quand même. Hein,
mais pour la peine, vous êtes breton.
Voilà. On va jouer maintenant avec Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Bonjour.
Oh là, un peu ralenti, Fabienne. Bonjour, Fabienne.
Ça va mieux maintenant?
Oui, ça va mieux. Vous habitez à Vincennes, Fabienne. Vous avez 55 ans. Vous travaillez dans l'administration. Quelle administration?
Éducation nationale.
C'est-à-dire, vous faites quoi à l'éducation nationale?
Bon. Oh, je suis à l'administration, secrétaire de direction, beaucoup de travail, toutes les instances, les conseils d'administration, etc.
Oui, mais
vous n'êtes pas dans un lycée ou un collège? Vous êtes plus haut?
Plus haut.
Si, je suis dans un lycée.
Dans un lycée.
Et vous faites quoi exactement?
De tout. Bah écoutez, les réunions de direction, les conseils d'administration, je prépare les convocations, l'ordre du jour, etc.
Je vous sens très sérieuse dans votre travail. Hein.
Les sorties scolaires, bref, quoi, plein de choses.
Ah ouais.
On dirait qu'elle va nous mettre des heures de colle. Hein.
Oui.
Je suis désolée, madame, j'ai pas révisé.
Est-ce que des fois vous punissez, vous punissez les élèves?
Mais moi, je suis pas tellement liée aux élèves. Hein. Moi, je les écoute, je réponds à leurs questions.
Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question?
Sûrement, c'est le Parcoursup. Comment ça se passe?
Toute la journée, vous devez expliquer.
Pas du tout, pas forcément. Il y a quand même les profs, il y a la direction, les CPE.
Et puis, il y a les TPE aussi en ce moment. Hein.
Voilà, exactement. Ça va être remis, puis il y aura les profs d'oral.
Ouais, c'est ça. Bah, ma fille, elle est en plein TPE.
Ah, super.
vous trouvez ça super?
Oh bah oui, c'est une manière d'avoir des points quand même en passant un oral, des points pour le bac, c'est bien.
Bah oui. Hein,
c'est le moyen d'en perdre aussi, hein. Vous êtes très optimiste.
Non, on peut pas en perdre.
Oui, on peut qu'en gagner.
À mon époque, il n'était pas si donné que ça le bac.
Ouais, peut-être.
Bon. Fabienne, vous jouez avec qui?
Bah on va prendre Benache.
Bah oui, ça va vous rappeler vos élèves.
Allez, vous êtes concentrés. Attention, top chrono.
Oui.
C'est une femme du Parti Socialiste qui s'était présentée en 2007 à l'élection présidentielle et qui ne va pas se présenter aux européennes.
Royal, c'est Ségolène Royal.
Oui, c'est ça, c'est un rappeur qui s'est battu contre Booba.
Caris.
Oui, il présente le journal de 13h sur TF1 depuis toujours.
Oui, c'est... comment il s'appelle? Il parle de la campagne, la passe.
Entre autres. C'est un humoriste ch'ti qui a fait Bienvenue chez les ch'tis.
Oui, c'est... comment il s'appelle? Je sais plus.
Une candidate du Front National.
Oui, Le Pen.
Oui, il a sorti un livre, son dernier livre, là, qui est sorti récemment. Non, l'autre, un autre.
Trois bonnes réponses.
Ah,
dis donc, madame la conseillère de l'administration.
Pas terrible, ça.
C'est le stress,
hein, Jean-Pierre Pernaut.
C'est pas évident.
C'est Jean-Pierre Pernaut.
C'est une réunion parents-professeurs.
C'était facile, c'était c'était facile.
Danny Boone, c'était pas très compliqué. Du coup, non, mais attendez, vous avez trois bonnes réponses. Maë aussi, donc on va vous départager.
D'accord.
Vous êtes prêts, Maë?
Oui.
C'est une chanteuse qui est arrivée deuxième de la demi-finale de Destination
Rhône.
Oui, bravo Fabienne. Vous voyez, rééducation nationale, son enthousiasme. Voilà. Bravo Fabienne, vous avez gagné deux places pour aller voir mon tout nouveau spectacle Tout va bien au Casino de Paris du 29 au 31 janvier en partenariat avec Europe 1.
Mais quel beau cadeau.
Mais oui,
Fabienne, vous êtes censée...
Et dire qu'il y a encore une semaine, c'est un week-end à la montagne.
Bon, bah, c'est pas grave.
Quoi, c'est pas grave?
Madame Romanov, je vous ai vue au Palais Royal en janvier, il y a 4-5 ans. Je suis ravie de vous revoir.
Bah, c'est très gentil, je vous remercie. Maë, on est désolée pour vous?
Oui.
Oh, moi, je vous sens tout triste, Maë.
Déjà que c'était pas la patate avant, alors là.
Ah, ça vous fait un petit coup au moral, Maë?
Non, j'aimerais bien, à la limite, que vous m'envoyez votre livre dédicacé.
Ah, bah c'est possible. Ah. Bah, oui, mon livre, mais il n'y a pas de problème.
Et une mèche de Christine Béroux.
Voilà. Non, je les ai payées trop cher.
J'en fais un projet.
Bon, Maë, il n'y a pas de souci. Je vous envoie ça, je vous embrasse et continuez à nous écouter.
Oui, merci.
Bisous, Maë.
Bisous, Maë.
Si vous voulez jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Mérou, Benna, Jean-Philippe Vizini et Didier Porc qui reviendra sur les manifestations des Gilets jaunes.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou, Didier Porte. Vous savez que hier, c'était la journée mondiale de l'hypersensibilité. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, Ben H?
Bah oui, et c'est très bien de faire cette journée de l'hypersensibilité, un problème dont moi je souffre et qui est encore, je trouve, tabou pour de trop nombreuses personnes.
Ah bon, ça se traduit comment, votre hypersensibilité?
Des rapports sexuels de moins de 2 minutes. Vraiment hypersensible, mais super sensible.
Didier?
Oui, moi je suis un vrai hypersensible. Par exemple, quand je vois quelqu'un souffrir horriblement, je ne peux pas m'empêcher de souffrir aussi, rien qu'à l'idée que ça puisse m'arriver à moi.
Et alors, Jean-Philippe,
Moi non. Ma femme, oui, elle est hypersensible. Elle pleure pour un oui ou pour un non. Bah, du coup, hier, pour lui faire plaisir, on a joué à ni oui ni non.
Christine, vous êtes hypersensible.
Bah oui, je suis végane, c'est un synonyme d'hypersensible, hein, et aussi de chieuse, hein, selon tous les gens chez qui je vais manger. Mais c'est un autre débat, voilà.
Même les gens chez qui vous n'allez pas manger, Christine. Didier Porte, vous suivez toujours pour nous l'épopée des Gilets jaunes. Pas de blessure à déplorer pour l'instant?
Non, oui, ma chère Anne, j'ai cette chance de n'avoir toujours pas subi de dommages physiques graves en couvrant ce qui ressemble de plus en plus aux prémices d'une révolution. Il faut dire que je jouis du privilège de pouvoir couvrir cet événement historique de mon salon, lequel offre des garanties de sécurité relativement solides, à part peut-être lorsque la femme de ménage vient de cirer le parquet, ou quand mon fils de 10 ans procède à des séries de tirs tendus de toupies d'attaque sur les postes avancés d'une puissance hostile que je n'ai pas encore réussi à identifier.
Alors très bien, dans ce cas mon cher Didier, racontez-nous ce que vous avez vu à la télé sur la révolte des Gilets jaunes samedi.
Alors je ne l'ai pas vu, hein, mais j'ai appris qu'une équipe de LCI, mais pas seulement, d'autres journalistes y ont eu droit, avait été rudement molestée par des manifestants. Voici donc ma recommandation aux confrères des chaînes d'information continue. Ne travaillez plus à visage découvert. Camouflez-vous habilement. Jetez immédiatement votre brassard presse. Ensuite, fixez deux gros haut-parleurs sur votre caméra de manière à lui donner une allure de ghetto blaster. Vous savez, ces énormes postes de radio, lecteurs CD stéréo super puissants que les jeunes rebelles trimbalaient sur l'épaule, un peu comme une caméra justement, dans les années 80. Pour compléter le tableau et donner vraiment le change, débarrassez-vous de votre gilet multipoche de reporter et mettez-vous torse nu dans une salopette ultra moulante en lamé argenté et pattes d'éléphant, avec bottines à talons hauts et coiffure afro, en oubliant pas de vous badigeonner de cirage. Dissimulez une enceinte autonome derrière les faux haut-parleurs de votre caméra et mettez Sex Machine de James Brown à fond la caisse. Et dès qu'un groupe de gilets jaunes agressifs s'approche de vous, vous vous avancez vers eux d'un pas chaloupé et vous leur dites Yo man, keep cool. À tous les coups, ils vont vous prendre pour un groupe de soul débarquant tout droit de LA. N'oubliez pas qu'eux, ils arrivent tout droit de Châteauroux et de Vierzon. Voilà. Alors après-demain, le thème de mon prochain tuto spécial Gilets jaunes sera le suivant. Comment, par les temps qui courent, réussir à demander son chemin à un CRS sans prendre 15 coups de matraque, 3 tirs de flashball cadrés et une comparution immédiate pour injure à agent? La réponse est c'est pas possible.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben Hall, Jean-Philippe Bizzini, Didier Paul, Christine Bérou et nos invités Rudy Milstein et Salomé Lelouch pour la pièce J'aime Valentine mais bon, actuellement au théâtre Le Pic à Paris.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Et du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Bizzini, Bernard,
Christine Bérou
et nos deux invités qui viennent d'entrer dans le studio, deux amoureux du théâtre. L'une est l'heureuse propriétaire du théâtre Le Pic, l'autre est l'heureux auteur interprète de la pièce J'aime Valentine mais bon. Accueillons Salomé Lelouch et Rudy Milstein.
Ouais.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Salomé Lelouch, vous dirigez le théâtre Le Pic depuis maintenant... avant, ça s'appelait Ciné 13, vous avez changé le nom?
Tout à fait.
Pourquoi vous avez changé le nom? C'était connu
C'était connu, mais c'était un cinéma et c'était construit comme un cinéma. Et comme on a fait des travaux pour justement en faire vraiment un théâtre...
Vous avez programmé aussi, il y a depuis longtemps...
Ça fait 15 ans que je programme, et que je programme des spectacles, beaucoup du coup de jeunes compagnies qui acceptaient de venir jouer dans ce lieu, même s'il y avait 100 places et que le plateau n'était pas très pratique ou très grand, parce que justement, c'était leur début et tout ça. Et puis, en grandissant, en avançant avec eux, j'avais envie de continuer à travailler aussi avec ces compagnies-là, mais qui de plus en plus disaient « Ouais, c'est pas vraiment un théâtre ». Donc j'ai racheté, j'ai fait des travaux pour améliorer le confort, augmenter la jauge aussi.
Vous êtes courageuse quand même, tenir un théâtre depuis 15 ans maintenant?
Ouais, bah 15 ans, j'ai fait la programmation. Maintenant que je produis, peut-être dans 2 mois, je le vends et je fais faillite. On en reparle.
Dites en plus que quand vous avez tenu ce théâtre, vous n'avez jamais fait de comptabilité, vous avez appris sur le tas et vous dites quand c'est son propre argent, on apprend très vite.
Voilà. Donc au tout début, effectivement, c'était très compliqué parce que je suis arrivée, je ne savais pas ce que c'était que de la TVA, pas de la TVA, les contrats, tout ça. Et chaque pièce, au début, on payait personne, puis après, un peu au fur et à mesure. Donc, j'ai vraiment appris
sur le tas,
mais c'est chouette. Aujourd'hui, je suis contente. On paye tout le monde, ça y est.
C'est vrai.
Et donc, là, il y a cette pièce de Rudy Michel qui a fait un carton à Avignon.
Ouais, c'était cool. Ouais. On s'est bien passé à Avignon. Ouais. Et ça, puis, là, du coup, on a repris, là, ça fait deux semaines.
Parlez-nous de cette pièce. J'aime Valentine, mais bon.
Ouais, c'est ça. Non, c'est une pièce que j'ai commencé à écrire au lendemain des attentats de janvier 2015. Et en fait, je voulais parler un peu avec humour. Voilà, je me posais plein de questions. Je me disais, comment on fait pour s'engager quand on a une vie de merde? Comment on fait pour s'engager quand on n'a pas du tout l'âme d'un révolutionnaire? Comment on fait pour devenir un adulte quand on n'a toujours pas fait sa crise d'ado à 30 ans?
Vous avez quel âge, Rudy?
Écoute
Michelin.
Bien, ben
âge.
Vous
écoute, avez quel âge?
Prends des notes.
Faut dire le vrai âge?
Oui.
J'ai 34.
Bon, ça va.
Ouais. Je suis plus jeune, non?
Oui, vous faites plus jeune.
Je commence à faire des...
Vous faites 28.
Ah, merci, c'est cool.
C'est vrai, vous rigolez.
Et donc? Votre pièce,
c'est ça.
D'un éternel adolescent qui a du mal à s'engager?
Ouais, c'est ça, c'est un peu...
Pas d'accord, Salomé Lelouch, dites.
Non, c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup Rudy parce qu'il parle de ses névroses, il est sincère avec ça, donc c'est très très drôle quand on utilise ses névroses et ce qu'on a, et ça parle de quelqu'un qui a une culture, qui est juif, qui tombe amoureux d'une femme qui ne l'est pas.
Agnès Muguras.
Voilà, ouais. Agnès, qui est formidable. Toute la distribution est incroyable.
Farid Bouznad aussi, super.
Et voilà, et d'un seul coup, il va être rattrapé par ses démons. Donc, il va entendre des voix. Il va avoir l'impression, quand il veut l'embrasser, qu'il y a toute la Shoah et tous les morts qui sont là, qui font « Non, tu peux pas faire ça !» Ouais, non, c'est très, très drôle. Et ça parle pas que d'un adolescent. Il dit ça, et c'est vrai. Mais en fait, c'est déjà très intelligent de se dire « Tiens, je veux changer le monde, mais comment je peux le faire alors que j'ai une vie de merde ?» C'est déjà... se rendre compte de ça et avancer.
C'est une pièce très générationnelle aussi.
Très générationnelle, mais contrairement à ce qu'il dit, c'est pas du tout un adolescent et c'est assez brillant, hyper bien écrit. Il a la veine de Woody Allen, vraiment, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'il est.
Heureusement qu'elle est venue pour parler
de
vous.
Grave, hein,
parce que vous dites « Ouais, c'est cool
!» Mais il y a les deux dans le spectacle. C'est brillant. Mais bon, il dit aussi c'est cool.
C'est dur de vous vendre, dit Milstein.
Ben grave, c'est hyper. Non mais c'est compliqué de parler de soi.
En frimant, il y en a plein qui arrivent, très bien.
J'arrive pas du tout. J'ai trop d'angoisse, j'ai trop de choix dans ma famille pour pouvoir parler.
Il y a un manque de
légèrement.
Confiance en vous.
Non, trop de névrose, trop d'angoisse, c'est tout.
Bah, quand on vous voit comme ça, on dirait un géo du Club Med.
Ah, mais alors que pas du tout. Non, non, je suis tout le temps en train de tout remettre en question tout le temps.
C'est fatigant pour les gens
qui vous entourent.
Pour vous aussi, c'est fatigant, ça.
Non, pas du tout. Moi, j'adore parce que je le trouve brillant, léger. Effectivement, il n'y a pas du tout cette prétention. Donc, il dit, oh là là, je suis rien du tout. Puis, mine de rien, il dit des choses hyper justes.
Il remplit les salles, surtout.
Il remplit les salles.
Et pour vous, ça vous arrange?
Complètement. Je veux le garder. Vous voyez, je viens, je vérifie qu'ils disent bien toute la vérité pour qu'ils continuent à bien remplir
la salle. Ça fait combien de temps qu'elle joue cette pièce?
Ça fait 15 jours, 3 semaines.
Ouais, c'est le début, là.
Ouais.
Ça fait 15 jours.
Et jusqu'à quand vous l'avez programmé?
J'espère le plus longtemps possible.
Les gens sortent ravis, en tout cas.
Ouais.
Bah cool.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Salomé Lelouch, Rudy Michan, venu nous parler de ce très joli spectacle J'aime Valentine mais bon au théâtre Le Pic. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou et nos deux invités Rudy Milstein et Salomé Lelouch. Je vais nous parler de la pièce J'aime Valentine mais bon au théâtre Le Pic. Donnez l'adresse de ce théâtre, Salomé Lelouch.
Tout à fait, 1 avenue Junot dans le 18e. Vous pouvez prendre le métro là, Marc Webes.
Et le téléphone des réservations
01 42 51 13 79.
Ah ben voilà, ça c'est de la promo.
Bravo.
Rudy Milstein, vous avez des projets en dehors de cette pièce?
Eh ben ouais, ouais. Grave.
Des projets cool.
Grave cool.
C'est vraiment des mecs qui veulent pas vieillir. Qui parlent comme... C'est ce que ma mère me dit tout le temps. Faut que j'arrête de parler de ma mère. Mais
si les gens appellent aujourd'hui dans la journée en disant Anne Romanoff au téléphone, ils auront le droit à un tarif préférentiel de 13 euros.
Wow.
Ah, super.
Wow.
Cool.
Ça, c'est de la
redonnez le numéro pour la peine.
Voilà, au 01 42 51 13 79, vous appelez, vous dites Anne Romanoff et vous avez le droit à un tarif à 13 euros.
Et ça, voilà. C'est votre numéro ou c'est le numéro du théâtre?
Et si vous dites Ben H, vous repartez avec l'ouvreuse.
Salomé Lelouch, vous n'avez pas du tout envie d'être comédienne. Vous avez été comédienne au départ et ça vous a ennuyé en fait. Maintenant, vous faites de la mise en scène. Vous écrivez des pièces, que la pièce politiquement correcte a été nommée aux Molières, ma chère.
Merci. Elle se reprend là à partir du 22 février.
Au Théâtre de l'Œuvre.
Merci.
Comédienne, ça ne vous plaisait pas, Salomé?
Non,
vous êtes trop tombée dedans quand vous étiez petite, avec votre mère Evelyne Bouygues, votre père Claude Lelouch, ça vous a dégoûté en fait?
En fait, non, ça n'a pas pris. Et c'est grâce à Michel Duchossois que je m'en suis rendu compte un jour. Je jouais avec lui, voilà, et c'était chouette. Hein. J'ai appris plein de choses pour diriger, après écrire tout ça. Et un jour, il est sorti de scène et il m'a dit, oh là là, je ne me suis pas amusée aujourd'hui. Et moi, j'ai compris qu'effectivement, je montais sur le plateau un peu comme on va faire de la comptabilité. Donc, c'est vraiment bête, quoi. Enfin, c'est pas fait pour ça, ce métier. Et j'ai pris du plaisir dans l'écriture, dans la mise en scène, dans le fait d'organiser, de programmer, d'aller chercher les choses. Donc, je suis restée à un endroit qui me semblait. Il y a suffisamment d'acteurs comme ça. Je pense que si vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire ça, ça n'a rien d'encombrer les plateaux.
Vous entendez?
Jean-Philippe, je ne prends pas du tout pour moi. Moi, je m'amuse beaucoup ici.
Jean-Philippe Vizini, vous, alors dans la pièce, le héros interprété par Rudy Milstein a du mal à faire des choix.
Oui.
Et vous aussi, Jean-Philippe Vizini, vous avez du mal à faire des choix.
Oui, oui, oui. Oui, oui, moi, pour moi aussi, comme pour votre personnage, Didal, dans la pièce J'aime Valentin, mais bon.
Valentine.
Valentine.
Valentine. Ah, ben comme quoi, des fois, un E, ça change tout. J'aime Valentine, mais bon, pour moi aussi, l'engagement, c'est compliqué, j'ai du mal à faire des choix. Par exemple, le week-end dernier, on était invités chez les voisins. J'hésitais entre ramener une entrée ou un dessert. J'ai pas réussi à choisir, du coup, je leur ai fait un gâteau au chocolat et aux endives. Personne n'y a touché, si vous voulez, demain, je vous le ramène.
Non, ça va
non,
aller.
Merci. Bon, d'accord. C'est difficile de faire un choix. L'autre jour, on était au centre commercial avec ma femme. On a perdu le petit. Et en plus, on ne retrouvait plus la voiture. Là, faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on cherche en premier? Là, ma femme qui pleurait, tu te rends compte? Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cher. Je lui dis, pour moi aussi, t'as raison. Allons chercher la voiture. L'autre soir, ma femme, elle voulait qu'on fasse une soirée romantique avec des bougies et des pétales de rose dans la baignoire. Moi, je voulais faire une soirée avec mes potes. Elle m'a dit, fais un choix. J'ai pas réussi. Du coup, on a coupé la poire en deux. Elle a fait une soirée romantique avec mes potes dans la baignoire. J'arrive jamais à faire un choix. Et même quand j'ai pas le choix, j'hésite. L'autre jour, mon médecin me prescrit un médicament. J'avais pas le choix. Fallait que je le prenne. Sur la liste des effets secondaires possibles, il y avait marqué, entre autres, 5 qui poussent, tendance suicidaire. Je me suis dit, moi, je suis venu pour un nez qui coule. J'ai vachement hésité avant de prendre le médoc. Les seins qui poussent, tendance suicidaire. En même temps, si t'as les seins qui poussent, quand t'es un mec, je peux comprendre que t'aies des tendances suicidaires ensuite. T'imagines ? Non, Bernard, saute pas ! Fais pas le con, Bernard ! Lui, j'en ai rien à foutre si vous croyez que c'est facile de vivre avec un 95B ! Regarde, j'arrive même pas à trouver des soutifs coordonnés avec mes slips ! Bon, encore une fois. Non mais j'imagine Bernard, c'est très... Bon, faut imaginer Bernard, voilà, encore une fois, pour s'habiller, c'est pas facile. Faut faire des choix pour être tranquille. L'été dernier, je voulais réserver une semaine de vacances dans un camp de nudistes. Comme ça, au moins, t'as pas le choix. C'est super, ma femme, elle me dit, non, 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 on part comme chaque année en Bretagne chez mes parents. Bon, on n'a pas réussi à faire un choix, du coup, on a passé une semaine en Bretagne, tout nu, chez ses parents. Comme quoi, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà.
Dans la vie, Salomé Lelouch, vous arrivez à faire des choix?
Oui, c'est compliqué aussi. Hein. Ça, par exemple, le choix du changement de nom du théâtre, ça a été 6 mois de discussion avec tous mes amis. Mais alors, on change, maintenant c'est Connu Ciné 13, ou mes théâtres Le Pic, ou mon Entend Ciné, ou mes tout ça. Et ça a été très, très cornélien. Mais il y avait le théâtre 13, la plupart des gens confondaient, disaient théâtre 13, sortait dans le 13e, donc j'ai choisi, voilà, j'espère que ça va être un bon choix, mais ça peut être très compliqué un choix.
Et puis il faut dire que ce théâtre a un emplacement magnifique quand même dans Paris, c'est un des plus beaux endroits, au haut de l'avenue Junot.
C'est magnifique, on est à 2 pas de la place du Tertre, on peut avoir vraiment l'impression quand on se promène autour d'être il y a 50 ans ou il y a 100 ans, enfin voilà, ça, c'est complètement hors du temps. Le lieu aussi, Art Déco, il est très beau, enfin vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de...
Vous donnez le numéro des réservations?
Bien sûr. Eh ben c'est juste aujourd'hui. Hein. Vous appelez aujourd'hui, ça marche. Europe 1 01 42 51 13 79.
Europe 1. Merci Rudy Michel et Salomé Lelouch d'être venus nous voir. On rappelle votre pièce J'aime Valentine Mébon au Théâtre Le Pic. Et puis oui, votre pièce Politiquement Correct, Salomé Lelouch, qui reprend au Théâtre de l'Œuvre, une pièce nommée au Molière à partir du 22 février. Merci à tous.
Merci.
Les deux.
Merci.
On se retrouve dans quelques instants. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui sera notre invité.
Midi 30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Busini, Ben Hach, Christine Mérou. Et aujourd'hui, nous recevons un homme qui s'est invité dans notre salon chaque soir pendant des années. Un journaliste, homme de télévision, de radio, écrivain. Son timbre grave et mystérieux a marqué l'histoire du petit écran. Passionné de livres et de belles-lettres, il vit aujourd'hui un des plus beaux chapitres de sa vie. Grand érudit et curieux de tout dans une autre vie, il aurait pu être comme ses ancêtres, marin ou aventurier. Aujourd'hui, c'est sur nos ondes qu'il a choisi de voguer pour notre plus grand plaisir. Patrick Poivre d'Arvor nous fait le privilège d'être avec nous.
Bonjour Anne.
Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Nous sommes très heureux de recevoir un homme de lettres en 4 lettres, un PPDA.
Oui. Quand j'ai commencé à la radio, on m'appelait Poivre parce que c'était dur de dire Poivre d'Arvor. Il y avait notamment Yves Mourouzi qui avait beaucoup de mal à prononcer. Puis après, on m'a appelé PPA quand j'étais à la fin de mes années radio. Puis quand je suis arrivé à la télévision, c'est Jean-Michel Desjeunes qui m'a appelé PPDA. Et puis après, il y a eu Canal+, qui m'appelle PPD. Donc vous voyez, ça fluctue, quoi. J'ai tout un stock derrière.
Du moment qu'on n'arrive pas à PP.
Ben, je vais y arriver peut-être un jour, finalement.
Vous êtes fier d'avoir les initiales les plus célèbres de France? Vous n'avez jamais eu peur de vous faire détrôner par BHL, DSK, NTM?
De qui s'agit-il?
Pendant longtemps, d'ailleurs, PPDA, il paraît que ça signifiait pas peur de l'audimat.
Ou Petit Prince de l'audimat,
ah,
ou
c'est
Petit
plus joli,
Prince
ça.
D'amour, ou des petites choses. Enfin,
Petit
j'ai
Prince
le droit
d'amour
tout. Ouais,
oh.
J'ai
Petit Prince d'amour.
De temps en temps.
Ça, c'était des femmes amoureuses qui vous disaient ça.
Peut-être, oui, je ne sais pas.
Il y en a eu?
Il y a dû en avoir.
Quelques-unes.
Vous reviendriez sur TF1 si on vous demandait?
Le problème, c'est que ça fait 10 ans que j'en suis parti. On ne m'a jamais demandé, mais ne serait-ce que, ne serait-ce que
en télé-shopping,
venir parler de mon livre ou n'importe quoi, ou ramasser des champignons, par exemple. Ou n'importe
par
quoi,
contre, là, il faudrait passer par Danse avec les stars. C'est la nouvelle règle, sinon pas de retour
ah oui,
possible.
Alors non. Je ne serais pas crédible.
Vous êtes un piètre danseur, Patrick Poivre d'Arvor?
Oh, j'aime bien réserver ça à une intimité. Voilà. Je suis meilleur sur le slow et le rock que sur les danses d'aujourd'hui. Donc, il n'est pas indispensable que je me déhanche devant tout le monde.
On sait quand même maintenant que c'est à cause de Nicolas Sarkozy que vous avez été viré.
Oui, mais bon, tout ça, souvent...
Vous l'avez croisé depuis Nicolas Sarkozy?
Oui, bien sûr.
Et alors, vous lui faites la bise?
Bon, on se dit bonjour, oui, on s'est vu dans au PSG il n'y a pas très longtemps, un match. Et puis il m'a fait même des propositions politiques depuis. Donc, vous voyez.
Depuis, vous
tout, oui, c'était un an après. Et tout ça, ça s'oublie vite.
C'est peut-être pour ça qu'il voulait que vous partiez de TF1 pour vous avoir avec.
Peut-être. Voilà. Mais moi, je pense que les propriétaires de la chaîne ont voulu faire du zèle.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément demandé qu'on vous vire. Il a dit qu'il n'était pas content de vous.
Et puis à ce moment-là, on offre ma tête sur un plateau parce que c'est. Mais bon, c'est des mœurs qui me paraissent étranges. Je sais que du temps de Francis Bouygues, ces choses-là n'étaient pas arrivées parce que la même chose avait été demandée assez fortement par François Mitterrand. Et
pour vous
lui, ouais,
qu'est-ce que vous avez à énerver les présidents
Parce que je titille de temps en temps. J'étais considéré comme un peu insolent. Chirac m'avait dit « Votre question dérive vers une certaine forme d'insolence. » Et Mitterrand avait dit « Ah voilà, je vous reconnais bien là, l'insolence, c'est votre marque de fabrique. » Bon, c'est comme ça. C'était pas dire très insolent, c'était juste un peu impertinent. Et je crois que ça plaisait bien aux téléspectateurs. Ça plaisait moins à ceux que j'interviewais. Mais ils sont suffisamment armés pour pouvoir me répondre.
Mais toujours cette forme d'élégance aussi dans l'insolence.
Il vaut mieux quand même. Oui. Moi, j'aime bien ça. J'aime pas du tout les gens qui arrivent, qui foutent double, je sais pas, un aller-retour de gifle pour commencer une interview, parce que vous n'obtenez rien.
L'interlocuteur, il faut mettre la personne en confiance.
Ferme comme un point. En effet, et puis à un moment donné, vous sortez un petit truc comme le scorpion. Non, c'est chouette, parce que ce qui est intéressant, c'est pas tant la réponse, parce qu'ils sont très très rodés, mais c'est la petite gêne ou le petit déséquilibre.
Avant qu'ils arrivent à répondre.
Voilà. Et ça dure un quart de seconde.
C'est très rapide.
Et ça se voit. Ça se voit ou ça s'entend à la radio.
En même temps, si vous n'étiez pas parti TF1, vous avez eu une vie professionnelle très remplie depuis 10 ans.
Oui,
des mises en scène d'opéra, des livres. Alors ce livre, justement, La vengeance du loup, qui vient de sortir aux éditions Grasset, c'est un livre, en fait, il y a un fils qui est très ambitieux et il remonte avec l'histoire de son père, de son grand-père. Donc il y a les deux histoires en parallèle, en fait, la réussite du fils dans la politique et le drame qui s'est passé pour le grand-père en Algérie.
Exactement, oui. En 1942, en effet, il y a un drame absolu, un viol, et la vengeance de ce jeune homme, à ce moment-là, il s'appelle Guillaume, et qui va hélas mal se terminer, sera reprise en main comme un flambeau par le fils, puis le petit-fils. Et le petit-fils, lui, il n'a qu'un désir, c'est d'être président de la République. Il a 10 ans, il pense qu'à ça. Et est-ce qu'il va y arriver ? Bon, vous verrez à la fin du livre.
La vengeance du loup aux éditions Grasset. On se retrouve dans quelques instants pour en discuter avec Patrick Carola.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
D'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Christine Méraud et notre invité Patrick Poivre-Dard va nous parler de ce livre La vengeance du loup aux éditions Grasset. Alors vous en profitez quand même, il y a des petits tacles quand même dans ce livre, non Patrick Poivre-Dard?
Oui, disons il y a des petites clés.
Oui. Mais... Par exemple, le petit-fils Charles, le héros du livre, oui, a une liaison avec une femme qui présente le journal télé.
Elle présente un journal sur une chaîne d'information en continu.
Vous avez réussi à le déstabiliser exactement comme il disait tout à l'heure.
Non, parce que j'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est possible que... Et ben non. C'était sur une chaîne d'information en continu. Parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est vrai que ces chaînes donnent le là.
Et alors, il doit
politique.
Abandonner une maîtresse aussi parce qu'elle devient envahissante.
Ça arrive dans la vie, pas uniquement à la radio ou à la télévision, hein, vous avez remarqué, ni dans la politique. Donc, il lui arrive pas mal d'intrigues amoureuses.
Puis il y a des scènes assez hautes, Patrick Poivre-d'Arvor.
Bah oui.
Oui, mais attendez.
Parce que la vie est parfois haute.
Ah oui, mais alors, attendez. Hein.
On était trois dans toi. Non, c'est pas ça.
Non, mais il y a quand même des... Les lèvres de Charles ne s'attardèrent pas longtemps sur la bouche de Samia. Elles descendirent sur ses seins. Il était désormais à genoux. Elle lui caressait la nuque. Il avait relevé sa jupe et fait glisser sa petite culotte. Il l'embrassait voluptueusement en humant son parfum. Elle allait jouir lorsqu'ils furent interrompus par un bruit dans le bureau derrière la porte.
Ça arrive dans la vie, ça.
Ah, hein.
Non, moi, je jouis jusqu'au bout.
Dans les bureaux d'Europe 1, ça ne m'est jamais arrivé.
Oui, parce que c'est des nouveaux lieux.
Ah,
c'est parce que c'est tout sécurisé, vous avez des badges partout.
Ah, c'est ça.
C'est à cause du badge. Il ouais. faut jeter ce badge.
Maîtresse d'elle-même, elle sortit son poudrier, se contempla dans le petit miroir et se remit du rouge à lèvres, là où elle l'avait abandonné à Charles. Elle le regarde avec la même intensité que lui et susurra sans le moindre complexe : j'adore ton odeur, elle donne envie de te faire l'amour. Et je comprends mieux pourquoi elle affole les couloirs des chaînes d'information.
Mmh. Ben, vous savez que les femmes politiques, elles parlent comme toutes les autres femmes. Hein. Elles peuvent avoir.
Enfin, on ne savait pas ça de Roselyne Bachelot, quand même. C'est une vraie surprise.
Vous avez déjà eu une liaison avec une femme politique, Patrick Favardaro ?
Vous ne saurez pas.
Ça veut dire oui.
Ça veut dire grand oui.
Ça veut dire plein. Ça veut dire oui.
Comment on fait pour être un séducteur ? C'est inné chez vous, parce que vous avez commencé à séduire les femmes très jeunes.
Non, pas du tout. D'abord, je ne sais absolument pas si je suis un séducteur ou pas.
Ensuite, si, quand même.
Phrase de séducteur.
Quand j'étais. Oui, ça, c'est une phrase de séducteur. J'étais.
Mais la voix aussi.
Timide, tellement sauvage. Incapable de regarder une jeune fille dans les yeux. Il m'est arrivé comme ça, il y en avait une qui me plaisait bien au lycée de filles où se trouvait ma sœur. J'ai fait 4 fois le tour du lycée et je suis passé 4 fois devant elle sans oser lever le regard.
Bah heureusement, parce que sinon elle aurait été enceinte.
Il n'empêche que c'est peut-être justement parce que j'ai eu ce démarrage difficile dans la vie amoureuse, en tout cas dans la vie... juste du contact, parce que
vous étiez
pour être
timide.
Amoureux, il faut réussir à établir un contact. Peut-être qu'après, oui, il y a eu quelque chose. Je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais j'aime. Et puis j'aime beaucoup les femmes, c'est vrai. J'adore travailler avec des femmes. Je déteste les réflexions sexistes. Aujourd'hui, il y en a moins qu'avant, mais avant, dans des dîners, il y en avait tout le temps en permanence. Parfois, ça m'arrivait de quitter un dîner parce qu'il y avait
carrément.
Une réflexion. Ah oui, je supporte pas ça. Et je me sens proche des femmes, et parfois tout proche, voilà, c'est comme ça.
Trop proche, certaines disent.
La vengeance du loup, donc c'est l'idée de faire une espèce de saga politique, médiatique, et puis remonter aussi dans l'histoire, parce qu'il y a cette histoire de vengeance qui est importante,
oui.
Où justement c'est une femme qui est bafouée.
Oui, parce que comme ça, sous Alexandre Dumas, Victor Hugo, Balzac, etc., il y avait toujours
l'idée de la vengeance.
Vengeances, comme ça. J'aime bien, par ailleurs aussi, l'idée du feuilleton, comme vous venez de la faire remarquer. Alors aujourd'hui, le feuilleton, c'est souvent télévisé. Et je pense que ce livre, par exemple, pourrait faire en effet un bon feuilleton télévisé. Mais j'aime bien cette idée des enchaînements presque inéluctables du destin. Quand le destin sonne à la porte pratiquement à chaque chapitre et qu'on est obligé de suivre ce qui va se passer, ça m'excite beaucoup. Oui. Oui.
En tout cas, c'est un livre très excitant à lire, Patrick.
Bah, vous êtes adorable, merci. Je vous ai senti très excité.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Patrick Poivre-d'Arvor, venu nous parler de son livre La vengeance du loup qui vient de sortir aux éditions Grasset.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Christine Béroux et notre invité Patrick Poivre-d'Arvor pour venir nous parler de son livre La vengeance du loup. Est-ce que pendant longtemps, finalement, votre image de journaliste était tellement forte que ça a cannibalisé l'écrivain, Patrick Poivre-d'Arvor ?
Un petit peu, bien sûr, mais bon, je savais qu'à pas faire ce métier. Mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire un livre, donc j'avais 17 ans. Ça s'appelait Les Enfants de l'Aube. Après, j'en ai écrit un autre qui s'appelait Deux Amants. J'avais 18 ans, mais je ne les ai pas publiés tout de suite. Et donc, quand c'est arrivé, bah, c'est vrai qu'il y avait déjà la notoriété. D'une certaine façon, on m'a beaucoup vu, et aujourd'hui encore, et pourtant ça fait
comme un journaliste qui écrit alors que vous êtes un écrivain qui est devenu journaliste.
Bon, mais c'est comme ça, hein. C'est pas plus grave que ça.
Oui, mais vous auriez aimé, par exemple, rentrer à l'Académie française.
Vous êtes encore un peu jeune.
Non, mais c'est vrai que j'adore la compagnie des écrivains, je me sens heureux avec eux.
Vous faites beaucoup d'émissions littéraires aussi.
Oui, vous êtes battu encore pour ça, aujourd'hui, bien sûr, sur CNews, Vive les livres. J'ai fait ça sur TF1 pendant 20 ans, Aix les Brises, puis Vol de Nuit. J'aime profondément ça, j'aime ce monde. C'est ce monde qui m'a ouvert à la vie aussi. Hein. Je remercie infiniment tous les écrivains que j'ai lus et qui m'ont permis de découvrir des sentiments que je ne connaissais pas quand j'avais 10-11 ans. La mort, l'amour, le désespoir, la jalousie, la colère. Enfin, c'est peut-être pour ça que ma vision du monde est un peu encore aujourd'hui romanesque, parce que j'ai appris tout ça dans les livres, plutôt que dans la compagnie des êtres humains. Et je les en remercie. Donc c'est magnifique. C'est vrai que je voulais être écrivain. je suis devenu journaliste par hasard. Et mais en même temps,
vous êtes un écrivain.
Enfin, bah oui.
Vous êtes écrivain.
Enfin, j'écris. Pour moi, un grand écrivain, c'est quand même quelqu'un de très à part. Et parfois, vous savez, quand on écrit, on se dit mais qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter ma prose à tout ce qui a été écrit et bien écrit depuis si longtemps. Et puis quand même, on peut pas s'empêcher de le faire.
Alors vous êtes un moyen écrivain, si vous ne considérez pas comme un grand écrivain.
Grand écrivain, ça, c'est extrêmement difficile de donner cette. Enfin, c'est une acception qui ne peut être réservée qu'à quelques-uns.
Alors vous êtes un bon écrivain ?
Je pense que j'ai dû écrire une dizaine de bons livres, oui. Voilà.
Dont celui-là, mais, La Vengeance du Loup.
Mais il y en a d'autres qui étaient peut-être un peu moins bons, oui, sans doute.
Vous êtes dur avec vous-même, Patrick Pardin ?
Non, il faut être juste. Vous savez, quand je critique les livres des autres, il faut que je sois aussi capable d'être distant vis-à-vis de ma propre production.
Je vous présente Ben H, qui a quelque chose à vous dire, Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, monsieur Patrick Poivre d'Arvor, tout au long de votre carrière, vous avez eu face à vous les grands de ce monde, hein, mais aussi Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est moi qui suis face à vous et ça me fait tout bizarre. Hein. La dernière fois que je vous ai vu d'aussi près, hein, c'était il y a quelques années. C'était chez mes grands-parents. À l'époque, il y avait un écran de télé qui nous séparait. Vous présentiez le 20h et moi, je mangeais du pâté, vous en souvenez ?
Ah non, mais en recherchant bien, peut-être, je peux trouver.
Depuis ce soir-là, je vous admire, Patrick Poivre d'Arvor. C'est simple, au collège, quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grand, je répondais Patrick Poivre d'Arvor. On me disait, tu veux devenir journaliste, couvrir l'actualité de la planète, interviewer les grands de ce monde ? Ah non, je veux juste avoir du succès avec des nanas. Ah, je veux devenir ce séducteur charismatique, hypnotisant les femmes, même en annonçant un génocide quelque part dans le monde. Un charme légendaire m'obligeant à rappeler régulièrement à ma grand-mère que le cornichon qui accompagne le pâté ne se suce pas, il se mange. Ça devient gênant, mamie. Oui, cher Patrick Poivre d'Arvor, vous allez démentir, mais votre réputation vous précède. Vous avez présenté le journal le plus regardé d'Europe pendant 2 décennies. Vous avez publié des dizaines d'ouvrages, mais dans les consciences collectives, PPDA, c'est un lover. PPDA, c'est Julio Iglesias à la bibliothèque. Le séducteur intellectuel qui s'ignore. Vous le savez, Patrick, le mec qui lit des livres, ça attire les femmes. Mais alors, le mec qui les écrit, bah, c'est la voiture balai, là. Hein. À 15 ans, il faut jouer de la guitare pour pécho, mais à partir de 17 ans et pour le reste de la vie, il faut écrire des bouquins. Et vous l'avez vite compris, ça, Patrick. Du coup, moi, j'ai voulu faire comme vous. Et puis, très vite, j'ai appris que vous aviez eu votre bac à 15 ans et que vous étiez brillant à l'école. Bon, bah, du coup, très vite, j'ai pas fait comme vous. Et de toute façon, bah, j'avais grandi. J'avais aussi compris 2 choses. Première chose, pas besoin de présenter 10 000 JT pour pouvoir coucher avec une femme. L'alcool suffit. Et deuxième chose, que vous étiez un réel grand amoureux de la littérature. Un vrai de vrai. J'ai réalisé que votre rapport au livre n'était pas seulement un attrape-nana, mais une passion sincère pour les mots. C'était alors définitif. Le rêve de gosse s'effondrait. Je ne pouvais clairement pas devenir Patrick Poivre d'Arvor. Et je reconnais hein, que le dernier livre que j'ai lu, c'était Harry Potter. Et en plus, c'était pas vraiment le livre que j'ai lu, c'était les sous-titres du film au cinéma. Et puis parce que de toute façon, je sais très bien que quand je fais mes chroniques ici, aucune auditrice ne suce de cornichon. Non, l'enfant que j'étais n'est pas devenu PPDA, mais l'adulte que je suis devenu est vraiment honoré de le rencontrer.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Patrick Poivre d'Arvor, quand ils vous croisent ?
Ben, ils me disent, je sais pas, vous nous manquez, quand est-ce que vous revenez ? Alors, parfois, il y en a quelques-uns qui disent, ah, je vous ai encore regardé hier à 20h, c'était formidable. Ouais. Bon, là, je m'interroge ouais. Parfois.
Pour prendre les cachets, mamie. Hein.
Mais non, les gens sont vraiment gentils, ils sont adorables. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Jean-Philippe Guisini, Ben H, Christine Béroux et notre invité Patrick Poivre d'Arvor venu parler du livre La Vengeance du Loup qui vient de sortir aux éditions Grasset.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1. Ce lundi avec Jean-Philippe Guisini, Ben H, Christine Béroux et notre invité Patrick Poivre d'Arvor. Vous dites que vous êtes un peu heurté par le flot d'informations en ce moment qui fait perdre l'essentiel.
Oui, ça c'est vrai. Je préfère de toute façon, établissons bien clairement les choses, une société avec trop d'informations qu'une société sans informations. On connaît hélas des tas de régimes aujourd'hui encore où il y a zéro information ou qu'il y a l'information que le gouvernement a décidé d'accepter. Mais en revanche, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est submergé, on le voit bien nous-mêmes. Avant, quand on regardait le journal de 20 heures, assez souvent, on ne savait pas ce qui allait s'y passer. Là, maintenant, avec nos alertes, avec Twitter, avec Facebook, avec le téléphone portable, on sait toujours ce qui va se passer. Donc, il y a plein de choses qui nous arrivent. Simplement, le problème est celui de la hiérarchisation. Tout vous est balancé comme ça, comme une espèce de flot, et puis débrouillez-vous. Et moi, j'aime bien quand il y a des journalistes derrière qui essaient un peu d'endiguer ou qui...
Vous dites résultat, nous sommes désormais dans la réaction plus dans la réflexion. Les polémiques se succèdent, une actualité chasse l'autre, on répète, on crée du buzz. Et 24 heures plus tard, il faut passer à une autre séquence. Quand l'actualité est dense, il y a une concentration de sujets développés ad nauseam. À l'inverse, quand l'actualité est moins riche, on crée du vide pour meubler. Et en d'autres termes, on produit du contenu pour alimenter le contenant.
Ça, c'est dans... En effet, c'est une phrase que j'ai prononcée parce que c'est... Je le pense profondément. Je suis un peu gêné de voir... justement, tout qui arrive comme ça, des tas de vannes se sont ouvertes depuis un certain temps. On s'en est aperçu dans l'actualité la plus récente. C'est absurde de s'en prendre maintenant.
Vous en pensez quoi des gilets jaunes, Patrick Paul-Darvaux ?
Tout le monde peut avoir un gilet jaune parce que le gilet jaune, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans une voiture, vous devez en avoir un. Donc, n'importe qui peut se mettre un gilet jaune. Les premiers que j'ai vus, ceux que j'ai entendus, notamment au mois de novembre, était passionnant parce qu'ils ont révélé quelque chose de notre France, d'un abandon total de cette France périphérique. Et donc, il y a eu une lumière qui a été leur a été donnée. Ensuite, il y a eu de l'argent qui leur a été donné. Donc, d'une certaine façon, après la considération, sont arrivés les moyens. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis après, on en arrive juste... à des gens qui sont extrêmement peu nombreux, on le sait très bien, là, même 50 000 lors de la dernière manifestation, c'est pas énorme si on rapporte ça à l'ensemble du territoire. Donc on en est sur des gens qui continuent à exhaler une forte rancœur, alors que je trouve que c'est 10 fois plus passionnant de discuter, de rentrer dans un débat.
C'est peut-être vous qui pourriez diriger le grand débat national, Patrick.
Bon, vous avez vu, on dure à peine une demi-journée quand on est nommé à la tête de ce grand débat.
Christine Béroux, qui n'a pas de gilet, a des choses à vous dire, Patrick Paul-Darvaux.
Oui, tout à fait. Je vous ai préparé une petite interview ex libris.
Wow.
Tout à fait, une interview ex libris pour s'amuser intelligemment, les mauvaises langues diraient même pour remonter le niveau de cette émission. Alors, pour commencer, un petit quiz bibliothèque. Alors, si votre carrière au JT se résumait en un titre de livre, ce serait 20 milieux sous les mers, parce que pendant 30 ans, vous avez été sous l'eau. La Bible, parce que le 20h, c'est sacré. Ou Orgueil et préjugés, parce que c'est pas un milieu très facile.
20 milieux sous les mers, parce que j'adore Jules Verne. Ouais.
Uh-huh. Si ce que vous avez ressenti en quittant le JT était un titre de livre, ce serait Le Temps Retrouvé, Bonjour Tristesse ou La Vie Devant Soi.
Aussi bien Le Temps Retrouvé, donc.
Et Bonjour Tristesse, un peu quand même. Soi. Bonjour Tristesse, non, un petit peu quand
non,
même.
Non, non, c'était étrange comme moment, mais ça a duré 3-4 mois. Après, je passais à autre
chose. Comme une rupture amoureuse, quoi.
Un peu.
Si est-ce que regarder son 20h, c'est comme espionner son ex sur Twitter ou sur
y a
Facebook
peut-être, c'est vrai que je ne regarde plus, mais c'est parce que je fais beaucoup de choses différentes.
Oui,
puis
voilà.
Je ne veux pas justement être dans la rancœur ou dans la comparaison ou dans la jalousie. Non, je ne veux pas.
Alors, si vous aviez comme surnom un titre de livre, vous aimeriez que ce soit L'étranger, parce que dans le fond, personne ne vous connaît vraiment. Harry Potter, parce qu'on raconte qu'en quittant le JT, vous avez subi la vengeance de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ou Le Petit Prince, parce qu'avec vos multiples activités, vous allez toujours de planète en planète.
Bon, j'aime bien le petit prince d'amour, le petit prince de l'audimat.
J'ai pas dit le petit prince d'amour,
hein,
ça c'est vous qui avez. Ok, d'accord. Bon, très bien.
Alors, non, puis j'adore ce livre.
Là maintenant, un petit quiz initial. Les vôtres PPDA sont très célèbres, mais si je dis MD est né il y a plus d'un siècle, est-ce que je parle de Michel Drucker ou de Marguerite Duras ? Très difficile.
Il y a plus d'un siècle, c'est Marguerite Duras.
Hein. Ouais. Et si je dis PB est un enfoiré, est-ce que je parle de Patrick Balkany ou de Patrick Bruel ? Il y a un petit piège.
Patrick Bruel, sans doute, parce qu'il participe aux enfoirés.
Ah, vous êtes intelligent.
Voilà. Ouais, non, mais bravo. C'est ça. Ouais.
Et si je dis AR, c'est du génie, quelqu'un qui a marqué pour toujours l'histoire de la culture française. Est-ce que c'est Anne Roumanoff ou Arthur Rimbaud? Faites attention, je ne veux pas perdre mon travail.
Moi, j'aime bien Anne, vous l'avez compris tout à l'heure, mais j'aime beaucoup aussi Arthur Rimbaud. Et quand j'avais 14 ans, j'ai pris mon Solex de Reims pour aller sur sa tombe à Charleville, c'est-à-dire à 70 km de là. Je peux vous dire que, voilà, que mon dos s'en souvient, parce que c'était... En Solex, on faisait 30 km/h au maximum. Mais j'adorais Arthur Rimbaud. C'était comme une sorte d'idole, vous voyez, comme aujourd'hui. Les gens qui vont voir Bohemian Rhapsody, ben voilà, c'était mon Freddie Mercury à moi.
Et vous prendriez votre Solex pour aller voir Anne Roumanoff?
Il y a le Uber maintenant.
Attendez, là, Rimbaud, il reposait dans son dernier sommeil. Donc je vais attendre le dernier sommeil d'Anne pour aller la voir.
Et enfin, un dernier petit quiz. Je vais vous faire une liste de propositions et vous allez répondre soit Marcel Proust, soit l'actualité. Beaucoup en parlent alors qu'ils n'y comprennent rien.
Ah, ça, c'est l'actualité.
Les personnages qui s'y expriment sont surtout des caricatures.
Dans l'actualité, souvent.
Et enfin, vous y serez toujours fidèle, quoi qu'il arrive.
À Proust.
Pas à l'actualité.
Mais j'aime la suivre, mais j'ai pris une petite distance. Là, voilà. Je suis plus aujourd'hui dans la création.
Et j'ai une petite anecdote pour montrer que PBDA est vraiment un être exceptionnel. C'est, en fait, je lui ai envoyé mon livre. Et en fait, il m'a écrit une petite carte manuscrite. Et j'étais comme une dingue. J'ai appelé mon éditrice et j'ai dit « Patrick, pourquoi faudrait avoir m'écrit ?» Et elle m'a répondu « Oui, il fait ça toujours avec tout le monde.
» Je ne fais ça que pour ceux qui m'ont dédicacé leur livre. Ceux qui me l'envoient sans dédicace, je ne le fais pas. Mais c'est comme une lettre. Toute lettre mérite réponse.
Mais merci pour ça.
Europe 1, Anne Roumanoff, l'histoire de la semaine.
Patrick Poivre d'Arvor, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre le lundi, on est lundi, donc vous démarrez l'histoire qui va être poursuivie le mardi par notre invité de demain. Il y a un mot imposé à piocher dans ce chapeau. Ah.
Et donc le cadavre exquis, c'est ça. Alors, ça tombe bien parce que c'est loup.
Loup.
Comme la vengeance du
loup. Loup, votre livre qui vient de sortir aux éditions Grasset. Donc, à vous de démarrer une histoire avec le mot loup.
Loup, y es-tu ? C'est la question que se posait une jolie bergère qui gardait ses petits moutons tout frisés, tout blancs, tout mignons, comme vous, et se disait quand même, à mon âge, il faudrait peut-être que je découvre le loup. Je vais aller voir le loup. Point final.
Merci Patrick pour avoir d'abord d'être passé nous voir. On rappelle votre excellent livre, La vengeance du loup, qui vient sortir aux éditions Grasset. Un roman d'aventure sur plusieurs années où on suit les pérégrinations d'un jeune homme ambitieux qui rêve de devenir président de la République. Toute ressemblance avec une situation réelle serait évidemment fortuite ou imaginaire.
Évidemment.
La vengeance du loup aux éditions Grasset de Patrick Poivre d'Arvor. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.